Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Venite, filii audite me. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Mes très chers frères, l'Église, comme une très sainte mère, nous appelle aujourd'hui pour nous enseigner la crainte de Dieu. C'est dans le graduel, ces paroles que vous avez entendues, ce sont des paroles de la sagesse qui sont tirées d'un psaume. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Celui qui craint Dieu n'a plus rien d'autre à craindre, car il reçoit la lumière de la vie, mes très chers frères. Ce sera un petit peu le thème de notre sermon d'aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons plusieurs choses à voir avec le Saint-Esprit. Premièrement, nous verrons comment l'Église nous enseigne de manière que nous puissions dissiper toute ténèbre sur nous-mêmes. En tout cas, un certain nombre d'illusions, donc de ténèbres, sur nous-mêmes. Nous verrons aussi comment nous juger nous-mêmes et comment cela peut se faire, et nous aurons quelques éléments pratiques pour le faire. En deuxième point, nous verrons la doctrine que notre Seigneur nous enseigne sur le bon arbre. Donc la doctrine du bon arbre, nous verrons comment on entretient le bon arbre et comment le bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Nous verrons ce que nous enseigne, ce que veut dire notre Seigneur, et nous terminerons brièvement par un troisième point, par une dernière exhortation. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez ce que dit notre Seigneur, mes très chers frères, dans l'Évangile, cet Évangile qui est, il faut le dire, très roboratif, et qui n'aurait pas vraiment besoin de beaucoup de commentaires, même si l'Église se doit de nous commenter les paroles de notre Seigneur. Mais ces paroles sont très compréhensibles en réalité. Écoutez ce que dit notre Seigneur à la fin de l'Évangile. « Ce n'est pas à quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Mes très chers frères, le propre de la lumière, c'est de dissiper les ténèbres. Le propre de la lumière, c'est de dissiper les ténèbres. Il n'y a pas de plus grande ténèbres que celles qui viennent de l'illusion, nous l'avons dit, l'illusion que l'on peut nourrir vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que une règle importante, nous dit un auteur, pour dissiper les ténèbres sur nous-mêmes, c'est-à-dire l'illusion sur nous-mêmes, une règle importante pour dissiper l'illusion, pour nous soustraire à toute illusion, c'est de nous juger nous-mêmes, non par les désirs stériles, ni par les sentiments trompeurs d'une certaine quelques dévotions que nous puissions avoir, mais par nos œuvres. En réalité, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, comment nous juger nous-mêmes, sinon en regardant nos œuvres? Alors, il se trouve que, bien sûr, nous avons tous à notre actif, j'imagine, quelques œuvres que nous qualifions de bonnes. Et c'est justement celle-ci qui pourrait nous induire en illusion sur nous-mêmes. On pourrait se dire, après tout, je ne suis pas un mauvais chrétien, je fais quand même quelques œuvres bonnes. Eh bien, justement, la doctrine du bon arbre, qui est donc tirée de l'évangile d'aujourd'hui, la doctrine du bon arbre, nous permet, eh bien, non pas simplement de juger subjectivement des fruits que nous estimons être des fruits plutôt bons, mais de juger de la racine, de telle sorte que selon, en toute logique, et peut-être même parfois contrairement à une certaine apparence, nous puissions juger du fruit. Après tout, celui qui n'a jamais vu une grappe de raisin en bonne santé, qui n'a jamais vu une figue en bonne santé, et qui a toujours vu des fruits à moitié pourris, pourrait s'imaginer que ce sont des bons fruits. Et donc, qui est-ce qui nous dit que les œuvres que nous estimons bonnes, que nous portons, sont véritablement des œuvres bonnes? Alors, la question est un peu rhétorique, parce que ces choses-là, vous les savez, mes très chers frères, que vous savez, grosso modo, quelles sont les œuvres bonnes, quelles sont les œuvres mauvaises. Mais enfin, ce que nous voulons dire, c'est qu'il est parfois bon de vérifier les racines. Nous parlons par allégorie. Il est bon de vérifier les racines, de telle sorte que, vérifiant les racines, nous puissions en toute logique discerner si ces fruits que nous pourrions estimer bons sont vraiment bons ou s'ils sont mauvais. Si la racine est en bon état, normalement, selon l'analogie, le fruit sera en bon état. Si la racine est corrompue, le fruit, même si nous le trouvons bon, même si nous l'apprécions subjectivement, ne peut pas être considéré comme un fruit bon. En tout cas, pas aux yeux de Dieu, donc aux yeux de notre Père, donc à nos propres yeux, puisque nous devons voir toute chose avec les yeux de notre Père. Donc nous devons nous juger nous-mêmes, non pas en fonction des œuvres bonnes que nous désirerions faire, non pas en fonction d'une certaine intensité de sentiments que nous pourrions avoir dans la piété, et une intensité de sentiments dans la piété n'est pas une mauvaise chose, mais s'il n'y a que ça, ça revient à peu près à dire constamment « Mon Dieu, je vous aime » et à ne pas pouvoir supporter la présence de son frère pénible, et à s'en plaindre à Dieu, et éventuellement s'en plaindre tellement à Dieu d'une mauvaise façon qu'on en vienne à manquer à la charité vis-à-vis de son frère. Toutes ces paroles, tous ces sentiments sont en quelque sorte révélés pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que si nous aimons vraiment Dieu, nous pouvons savoir que ces paroles que nous, et ces sentiments que nous avons dans la piété, et ces sentiments, ces paroles d'amour de Dieu, sont probablement authentiques parce que nous faisons des efforts vis-à-vis de notre prochain. Mais s'il se trouve que, en toute honnêteté, je pense que pour un chrétien, il n'est pas très difficile d'être honnête par rapport à lui-même, en toute honnêteté, il se trouve que nous ne portons pas de fruits, donc ça veut dire que ce qui doit être la racine de ces fruits est une racine qui est, sinon inexistante, du moins teintée de choses qui empoisonnent les fruits. Ce sont des règles générales de la vie chrétienne, il n'y a rien de bien nouveau, mais il faut l'entendre constamment, de telle sorte que non seulement nous y acquiescions, mais aussi que nous en fassions les critères de discernement sur nous-mêmes. Voyez-vous, mes très chers frères, il n'y a pas de plus grande ténèbre, il n'y a pas de plus grande illusion que de plus grande ténèbre de l'esprit que l'illusion où nous pourrions être par rapport à nous-mêmes. Il y a, voyez-vous, deux sources d'illusions que nous pourrions dire. Notre Seigneur dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, en parlant des faux prophètes, mais en réalité, les commentateurs passent très rapidement des faux prophètes aux faux prophètes que nous pouvons être à nous-mêmes lorsque nous nous trompons sur ce que nous sommes en réalité, que nous nous crevons les yeux, que nous ne voulons pas voir ce que nous sommes. Il y a donc, en grosso modo, deux sources d'illusions, on pourrait en trouver d'autres, bien entendu, mais pour notre propos aujourd'hui, nous n'en citerons que, mentionnerons que deux. La première source d'illusion, et si ce sont des laïcs qui entendent ces paroles, ils vont comprendre en quoi c'est un peu douloureux. La première source d'illusion peut provenir d'une mauvaise direction. D'où la nécessité pour les prêtres d'être de bons directeurs. La nécessité pour des prêtres de connaître la doctrine du Christ, de connaître les maximes de l'Évangile, et d'avoir la force aussi de les proclamer, de les dire, de les insinuer dans les esprits, de les défendre, et non pas de céder, disons, aux desiderata du vieil homme qui contamine la bonne volonté qui s'adresse à eux. Donc, vous voyez, il y a une première source d'illusion que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, c'est la mauvaise direction. Alors, ne jetons pas la pierre, que chacun s'examine soi-même, mais enfin, il est vrai que les prêtres doivent savoir que s'ils constatent parfois que les laïcs sont dans une illusion par rapport à eux-mêmes, ils devraient se dire est-ce que je dirige bien ces laïcs ? Il y a parfois des prêtres qui se plaignent de la mauvaise qualité des laïcs, mais qui ne se rendent pas compte qu'en réalité, les laïcs ne sont jamais que leurs enfants, le fruit de leur propre travail, le fruit de leur apostolat bancal. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide, que Dieu nous vienne en aide. Donc, une première source d'illusion peut être une mauvaise direction. Vous voyez, quand un prêtre avalise le désordre, lorsqu'il encourage ceux qui sont dans le désordre à continuer, comme s'il faisait le bien, même si lui-même, alors des fois les prêtres ne s'en rendent pas compte, mais même si lui-même a une petite idée que ce n'est pas forcément très bien, mais pour ne pas décourager les bonnes volontés, pour ne pas avoir l'air d'un rabat-joie, etc., on encourage, on cautionne le désordre. D'une certaine manière, il ne faut pas s'étonner que les fidèles soient dans l'illusion par rapport à eux-mêmes. Vous voyez, nous disons ceci, non pas pour attaquer les prêtres, évidemment, ce qui serait absurde de notre part, mais pour dire que il y a une source d'illusion qui est la mauvaise direction. Quand on a une morale laxiste et qui encourage toujours le plus petit côté à faire le minimum, c'est, d'une certaine manière, c'est une source d'illusion. Il y a une deuxième source d'illusion, bien entendu, qui concerne cette fois-ci tous les fidèles, tous états confondus, c'est, pour parler d'une façon imagée, la production, une surproduction de feuilles et une absence de production de fruits. Qu'est-ce que ça signifie? Saint Grégoire dit, dans l'interprétation qu'il donne de cette parole de notre Seigneur, il dit, les feuilles, c'est les paroles, les fruits, c'est les actes. Vous allez dire, est-ce qu'un arbre peut être sans feuilles? Non, parce qu'il faut dire, Seigneur, Seigneur, il faut le dire. Lorsque nous disons, alors vous allez dire, Seigneur, Seigneur, c'est peut-être une vaine redite. Effectivement, certains auteurs disent que c'est une vaine redite, des gens qui disent, ah, Seigneur, 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 mais... D'une certaine manière, pour ceux qui récitent les psaumes, ils savent très bien que, par exemple, dans le De Profondis, on dit « Domine, Domine, quis sinebit ». Donc, « Seigneur, Seigneur », ça peut être les paroles même de l'Écriture, ça peut être même les paroles de quelqu'un de pieux qui invoque droitement le Seigneur et qui ne prend pas le nom du Seigneur en vain. Production, surproduction de feuilles, si j'ose dire, si vous me permettez l'expression, et absence de production de fruits. Un arbre, il y a certains arbres qui sont cultivés uniquement pour leur feuillage. C'est très bien, c'est des arbres de haie, on ne leur demande pas de faire des fruits, de toute façon ils n'en ont pas, ou si peu, ou des fruits non comestibles, on leur demande de faire des feuilles. Le chrétien n'a pas, le bon Dieu n'a pas planté les arbres dans sa maison pour qu'ils portent des feuilles et non pas de fruits. Le bon Dieu, comme un sage jardinier, a planté des arbres fruitiers pour que ces arbres, certes, portent des feuilles, car un arbre sans feuilles ne peut pas vivre, un chrétien sans parole de piété ne peut pas vivre, mais... C'est surtout pour récolter les fruits. Et vous savez très bien que dans la nature, souvent les fruits arrivent en automne lorsque les feuilles sont tombées. Qu'est-ce que ça signifie? Si les feuilles, c'est les paroles et les fruits, c'est les actes, nous comprenons qu'il faut bien sûr prier, il faut faire des prières vocales, il faut avoir des bonnes paroles, il faut témoigner de sa foi, il faut dire à Dieu dans sa prière, Seigneur, je veux faire votre volonté, etc. Il faut dire des paroles, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dit l'Écriture. Néanmoins, il faut que ces feuilles, comme pour le processus de l'arbre, servent à fabriquer la sève, pour faire dire les choses d'une façon simple, à fabriquer la sève à la bonne santé de l'arbre, de telle sorte que ces feuilles, à un certain moment, pourraient même disparaître, que l'arbre, étant plein de sève et plein de vigueur, produit les fruits à un moment où ce n'est plus le temps des feuilles. Il y a un moment où ce n'est plus le temps de dire « je suis chrétien, je suis fier d'être chrétien, je suis même reconnaissant d'être chrétien » ou même on peut même dire des prières, on peut même réciter l'office, etc. Il y a un moment où il faut que tout ceci résulte dans un fruit et dans une abondance de fruits. Dans des fruits. Voyez-vous, mes très chers frères, il faut porter des feuilles, mais les feuilles sans les fruits rendent l'arbre inutile. Lorsque le propriétaire dit au jardinier dans la parabole qu'il veut faire abattre le figuier qui est stérile, il dit qu'il occupe inutilement la terre. Le chrétien qui aurait beaucoup de paroles, de très belles paroles, qui serait un arbre verdoyant, et c'est effectivement une caractéristique du chrétien que d'être un arbre verdoyant, et qui oublierait de porter des fruits, qui ne porterait pas de fruits, serait un arbre qui, je tremble en le disant, parce que ça nous concerne tous et moi en premier, un arbre qui occuperait inutilement la place qui lui a été donnée dans l'Église. Nous devons reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, et lui dire « Seigneur, Seigneur », bien entendu, nous devons le dire. Mais le reconnaître pour Seigneur et ne pas lui obéir, c'est... ce que l'Écriture appelle se moquer de lui. Lorsque nous avons des parents ou des enfants, et qu'ils entendent les petits-enfants qui parlent entre eux, et qu'ils disent « Ah, mon papa c'est le meilleur, mon papa c'est le plus fort, mon papa c'est le meilleur papa du monde, etc. » Alors, il est content d'entendre ça, et puis à la maison, le petit-enfant n'obéit pas. Il est insolent. Il désobéit. Que va penser le père ? Il va penser, alors ces cas de figure n'existent pas vraiment, j'imagine, mais le père va penser, mais finalement, je sers de sujet d'orgueil à mon enfant quand il est face à ses petits camarades, mais mon enfant se contrefiche, excusez-moi l'expression, mais de tout ce que je peux dire quand il n'y a personne pour le regarder. Le temps, je pense, n'est plus vraiment à la piété de certains qui est un peu comme les pharisiens, mais on a pu le voir aussi dans l'Église pendant longtemps, des gens qui affectent d'être très pieux, très ascétiques, etc. Bon, il ne faudrait pas prendre pour un hypocrite quelqu'un qui est un saint. Et souvent, les saints, on les prend pour des hypocrites, paradoxalement, ou pas. Mais disons qu'il est vrai que l'époque n'est plus vraiment à cela. On est plutôt à l'époque de la simplicité, où tout le monde s'avoue assez facilement pécheur et fier de l'être. Mais voyez-vous, mes très chers frères, si nous essayons d'être de bons chrétiens. Si nous témoignons volontiers de la foi à notre prochain, qui est sur la voie de la perdition, et que lorsqu'il s'agit d'obéir tout simplement à notre Dieu, nous hésitons, nous ne le faisons pas, bien sûr, nous ne sommes pas dans la situation caricaturale du petit enfant et de son papa donc, que j'ai cité, mais d'une certaine manière, nous contristons le Seigneur. Et ce n'est pas une invention de nous, puisque saint Paul dit « ne contristez pas le Saint-Esprit », et que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Dieu ne nous jugera pas, nous disent tous les auteurs, Dieu ne nous jugera pas sur nos velléités, sur nos intentions, mais sur notre ferme propos. Évidemment, ces mêmes auteurs nous disent, si nous avons le ferme propos de faire le bien et que nous n'en avons pas techniquement, physiquement la possibilité, Dieu nous compte bien sûr notre intention. Mais si nous venons les mains pleines, ou plutôt les carnets pleins d'intentions, et que nous disons à Dieu, voilà, j'aurais voulu être un saint, j'aurais voulu faire ceci, j'aurais voulu supporter mon prochain, etc. Mais enfin, il faut que vous compreniez aussi que, regardez, ce prochain était très pénible, cette situation était très délicate. Dieu ne va pas dire, c'est l'intention qui compte. Il dira, c'est l'intention qui compte, lorsque le parent, le père, la mère, après avoir éduqué ses enfants dans la crainte, et l'amour de Dieu verra peut-être, que Dieu nous garde, un enfant qui quitte le droit sentier, l'intention du parent aura été pure, il aura fait ce qu'il a pu, mais après chacun est responsable pour soi. Vous voyez, on aurait voulu faire le bien, on aurait voulu donner à son prochain une aumône abondante, mais on connaît une crise financière. On n'a plus d'argent. On l'aurait sincèrement fait si on n'avait pas pu. Dieu nous compte l'intention. Mais c'est lui qui dit c'est l'intention qui compte. Imaginez que quelqu'un arrive à, je ne sais pas, à votre anniversaire ou à Noël, les mains vides, en disant j'ai complètement oublié le cadeau que je vous avais préparé, mais enfin c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Évidemment, les bras vous en tombent. Vous restez poli, mais vous vous dites en vous-même, c'était plutôt à moi de le dire, c'est l'intention qui compte. Le petit enfant arrive avec un cadeau pour sa maman, fait à la va-vite, qui est mal fait, qui est bâclé, et il dit, maman, voilà, je sais que c'est pas terrible, mais enfin, c'est l'intention qui compte. La maman n'est pas du tout touchée. En revanche, le petit enfant, la maman l'a vu préparer en secret son petit cadeau, etc., avec ses petites mains malhabiles, et il lui offre quelque chose qui vient du cœur, qu'il a travaillé longtemps dessus, mais de toute évidence, c'est un petit peu raté. C'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Et la maman est contente comme si le petit enfant lui avait fait un magnifique cadeau, parce que c'est l'intention qui compte. Donc c'est notre juge qui juge des intentions. Quant à nous, nous devons nous présenter à Dieu. Nous devons plutôt nous présenter à Dieu comme certains saints disaient, je pense que c'est peut-être Saint Bernard, je crois, sur son lit de mort, il disait « Priez pour moi, je n'ai aucune bonne œuvre à présenter à Dieu ». Saint Bernard, vous voyez, ou d'autres saints, je pense quelque chose comme, peut-être quelqu'un comme Saint Jean de la Croix aussi, je confonds un petit peu, mais ce n'était pas grave. Presque tous les saints, s'ils ont dû le dire, ils l'ont dit « Je n'ai rien ». C'est Dieu qui juge. Si en revanche on dit « j'aurais voulu faire beaucoup, j'ai beaucoup d'intentions, mais enfin en même temps le bon Dieu voit que ce n'est pas toujours évident », ce n'est pas du tout la même chose. Effectivement, là, on n'en a pas. Croire qu'on n'a pas de bonnes œuvres à notre actif et en avoir parce que c'est Dieu seul qui juge, c'est une bonne chose. Ne pas en avoir et dire que le bon Dieu verra l'intention, c'en est une autre. Vous voyez, mes très chers frères, dissipons très rapidement les illusions que nous avons sur nous-mêmes, et si c'est par la faute d'autrui que nous avons des illusions sur nous-mêmes, que la lecture de l'Évangile, que la lecture des auteurs pieux nous fasse nous juger nous-mêmes, mes très chers frères. Nous passons à notre deuxième point, où notre Seigneur dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. » Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un bon arbre porte un mauvais arbre peut produire de bons fruits. Le bon arbre, nous disent les auteurs, c'est le bon cœur. C'est le cœur qui est bon. Et le cœur qui est bon, attention, entendons-nous bien, c'est pas la nature qui est bonne, c'est pas le tempérament qui est affable et conciliant, c'est le cœur qui a l'amour de Dieu. Un cœur qui serait agréable selon la chair, selon la nature, etc., serait un cœur qui a quelques petites choses de bien que Dieu lui a donné par le biais de la nature, mais enfin, en réalité, on n'a rien fait pour acquérir ce cœur bon, et donc du coup, il ne vaut rien en lui-même, il faut qu'il soit surnaturalisé. Le bon arbre, c'est le cœur bon. Le cœur bon, c'est le cœur est bon quand la charité règne dans le cœur. La charité, qu'est-ce que c'est? La charité, c'est l'amour du Dieu créateur, du Dieu législateur et du Dieu rédempteur, qui est notre Dieu, hein, un seul Dieu, bien entendu. Souvent, on dit, on pense que la charité, c'est le fait de faire des sourires aux gens, d'être gentil, etc. Ça n'exclut pas, évidemment, il vaut mieux faire le sourire que faire la tête, évidemment, mais la charité, ce n'est pas un certain sentiment que l'on a ou que l'on se force à avoir et qui nous rend socialement compatible avec notre prochain. Ce n'est pas impossible que cela fasse partie de cela, mais c'est une petite partie, c'est un petit aspect, c'est un aspect bas de la charité. La charité, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement, en amont de tout, avant d'être l'amour du prochain, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas, comme nous l'avons dit, forcément un sentiment, ce n'est pas avant tout un sentiment de tendre envers Dieu qui... Cela peut se manifester, mais encore, on ne peut aimer, dit notre Père Saint-Augustin, on ne peut aimer que ce qu'on connaît. On ne peut aimer Dieu que si on connaît Dieu. Et Dieu, ce n'est pas une entité sympathique dans laquelle nous sentons que notre cœur s'élève. Dieu, c'est notre créateur, notre législateur, notre rédempteur. Voyons très très rapidement comment la charité qui rend le cœur bon doit se manifester. C'est l'amour de notre créateur tout d'abord. Si nous voulons avoir la charité, considérons Dieu comme notre créateur et considérons que notre raison d'être est de vivre à sa gloire. Si nous aimons Dieu, notre Créateur, le fruit correspondant, ce sera, d'une façon générique, la volonté et le fait de vivre à sa gloire. Nous en avons parlé précédemment, donc nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit précédemment. Vivre à sa gloire, si nous aimons vraiment Dieu en tant que notre Créateur, le fruit sera de vivre à sa gloire. Si nous aimons vraiment Dieu en tant que notre législateur, nous aurons de fait, et c'est peut-être encore plus facile à comprendre, nous aurons de fait, puisque c'est immédiatement praticable, une vie, nous comprendrons que seule une vie ordonnée, une vie dans l'ordre, une vie un chrétien dans l'ordre, une vie normée par la loi de Dieu, spécialement le décalogue, plaît à Dieu. Donc si nous avons vraiment la charité, si notre cœur est bon, et le cœur bon ne peut pas produire de mauvais fruits, nous verrons ce que ça signifie dans un instant, il se trouve que si nous aimons Dieu en tant que notre législateur, nous vivrons selon sa loi et nous vivrons là où il nous a donné de vivre, et comme il veut que nous vivions, et pas autrement. Sinon, ce ne sont que des feuilles, il n'y a pas de fruits. Le fruit sera une vie ordonnée et normée par la loi, de telle sorte qu'elle plaise à Dieu. Et l'amour de Dieu en tant que notre Rédempteur, eh bien mes très chers frères, c'est un amour, comme vous le savez, de gratitude, c'est-à-dire c'est le fait de considérer constamment qu'il nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis, comme dit saint Paul, de telle sorte que l'amour envers Dieu en tant que notre Rédempteur se manifeste par ce mouvement de gratitude, de reconnaissance dont nous parlons assez souvent. Notre charité, voyez-vous, doit être la réponse à son amour pour nous. Il nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. Maintenant que nous sommes non seulement ses amis, enfin, ses les sujets de sa prédilection, que nous l'aimons, mais que nous sommes ses enfants par le baptême, nous devons comprendre que notre charité, ce n'est pas simplement un sentiment vague envers Dieu dont nous nions pas l'existence, c'est un mouvement de retour vers Dieu. Vous voyez, c'est pour cela que ce mouvement de retour vers Dieu peut s'accompagner d'un certain sentiment, d'une certaine ferveur, etc. Et parfois, elle peut disparaître sans que ce mouvement disparaisse lui-même. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que la charité soit ce mouvement de retour vers Dieu qui nous fasse tout quitter pour suivre Dieu, selon notre état, évidemment. Par le baptême, nous avons été, nous disent les auteurs, plantés dans la maison de Dieu. Si vous lisez bien l'Écriture, vous verrez que le symbolisme de l'arbre est assez constant, et il est dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament. Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens, vous êtes des plantes cultivées par la main de Dieu. Et dans le psaume 91, il est dit, le sage fleurira devant Dieu, planté dans la maison de Dieu. Donc, nous en avons parlé. Nous sommes des plantes, par un certain côté, nous sommes des enfants, nous sommes des agneaux, etc., mais nous sommes aussi comparables à des arbres qui ont été plantés par celui que Sainte Marie-Madeleine a reconnu comme le jardinier par excellence, celui qui est le premier Adam, le vrai, l'ardent, celui auquel, à l'image duquel Adam, premier jardinier a été créé, a été façonné. Il est le divin jardinier qui nous a planté. Notre rapport avec lui est parfois décrit comme celui d'une pierre par rapport au temple, d'un membre par rapport au corps, ou alors d'une plante, d'un arbre, par rapport au jardinier, au cultivateur. C'est Dieu qui nous a plantés, c'est Dieu qui plante ses arbres où il veut. Il plante parfois ses arbres dans le secteur de la cléricature, parfois dans le secteur de la, dans le champ de la, dans le jardin de la, du laïcat, mais peu importe où nous sommes, l'essentiel c'est que nous y soyons de par la volonté de Dieu et que nous y fructifions. C'est Dieu qui nous a plantés, il faut prospérer à l'endroit où Dieu nous a placés. Vous voyez, les arbres fruitiers se développent. Ce sont les arbres les plus domestiques qui puissent exister. Le jardinier les taille parfois sévèrement, et il porte des fruits là où ils sont. Lorsqu'il y a certaines plantes qui sont constamment en train de chercher à être ailleurs. Si vous regardez la glycine, par exemple, elle est constamment en train, comme une pieuvre, de lancer des tiges partout pour toujours, se transporter ailleurs, mais pour être aussi ailleurs. L'arbre fruitier est comparable à un mouton, à une brebis, c'est-à-dire que c'est un animal, c'est un être simple qui, d'une certaine manière, qui s'il commence à bouger, ça veut dire qu'il commence à mourir, ça veut dire ou bien que son tronc se déracine, ou bien que ses branches mal taillées vont n'importe où, et donc évidemment on sait très bien qu'un arbre fruitier mal taillé, non taillé, finira par ne plus porter de fruits, et finira par se dessécher, par mourir, parce qu'il n'est pas fait pour être comme ça. Nous ne sommes pas n'importe quelle plante. Nous sommes les plantes plantées par Dieu dans le périmètre de sa maison. Nous devons donc fructifier selon notre nature. Et notre nature, n'est autre que celle d'enfant de Dieu, de membre du corps mystique du Christ, ce qui est une nature très particulière, de telle sorte que nous ne devons pas nous sentir solidaires de la nature humaine en général, qui est marquée par la déchéance et la chute. Nous devons avoir pitié d'elle, bien entendu, mais par le baptême, nous ne sommes plus de ce monde-là, de ce monde qui se damne. Nous sommes du monde du nouveau monde, le monde de la régénération, et nous devons nous sentir solidaires, et être solidaires, vraiment au bon sens du terme, de toute cette nature, de telle sorte que nous comprenions que, d'une part, lorsque nous voyons un frère qui flanche un petit peu, qui pêche, etc., eh bien, l'Écriture nous enseigne que la charité couvre une multitude de péchés. Et d'un autre côté, lorsque nous nous laissons un petit peu aller, nous devons nous dire que nous malédifions aussi notre prochain, qui a besoin de notre exemple, notre prochain chrétien, qui a besoin de notre exemple. Vous voyez, tous les arbres, en quelque sorte, sont en lien les uns avec les autres, et c'est une chose tout à fait remarquable de voir comment nous pouvons être encouragés à faire des efforts dans notre vie chrétienne si nous pensons non pas à l'exemple, disons, au paraître que nous donnons par rapport aux autres, mais à l'exemple que nous donnons, à nos enfants, à l'exemple que nous donnons à nos frères, à l'exemple que nous donnons à ceux qui ne sont pas encore de la foi, mais qui s'approchent de la foi. Vous voyez, c'est une façon non pas de bâtir une façade, évidemment ça pourrait être le cas, mais il ne faut pas céder à cette facilité, c'est une façon de nous maintenir, de comprendre que nous devons collaborer à Dieu, à cet élagage qui nous rend plus fructueux, plus féconds en bonnes œuvres, en fruits à la gloire de Dieu. Seule la charité, la racine de la charité, peut nous faire fructifier. La cultivation des arbres que nous sommes, mes très chers frères, consiste en l'entretien du don de Dieu. Nous devons donc, nous l'avons dit, veiller à la racine. Saint Augustin nous dit, comme la concupiscence est la racine de tous les maux, ainsi la charité est la racine de tous les biens. Souvent, nous posons la question de savoir comment s'interprète d'une façon très précise cette maxime que nous citons souvent, tout le mal vient de nous, tout le bien vient de Dieu. Effectivement, c'est une maxime très très fréquente, mais comme souvent, des choses qu'on entend le plus ne sont pas forcément celles que l'on comprend le plus. Tout le mal vient de nous, tout le bien vient de Dieu. Eh bien, nous avons là une clé dans la perspective de la doctrine du bon arbre. Nous avons une clé. Voyez-vous, mes très chers frères, c'est que le mal, c'est le détournement de la nature au profit de l'amour propre. Donc lorsque nous disons tout le mal vient de nous, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'hideux en nous qui est comme une sorte de volcan qui crache de la fumée et alors que tout le reste va bien. C'est qu'il y a en nous une tendance à mal user de tout ce que Dieu nous a donné, du point de vue de la nature et éventuellement aussi de la grâce, pour le faire servir à notre amour propre. Donc il est facile de comprendre que tout le mal vienne de nous, puisque ce n'est pas Dieu qui exerce la concupiscence, c'est nous. Donc, en réalité, le mal vient de nous, parce que c'est de nous que vient cette possibilité de détourner les choses de la nature au profit de l'amour propre. Et quand nous disons tout le bien vient de Dieu, il ne faudrait pas s'imaginer que le bien vient de Dieu un petit peu comme si nous étions une forme positive, si l'on peut dire, de posséder. Le possédé est un malheureux qui est parasité par un démon. Et le chrétien serait donc une sorte de bienheureux parasité par Dieu, où Dieu ferait le bien en lui, et le chrétien serait comme une sorte de marionnette, nous en avons parlé la fois précédente, une sorte de marionnette univoquement. Ce n'est pas comme cela qu'il faut le comprendre, voyez-vous. Le bien qui vient, qui est en nous, parce qu'il s'agit du bien qui est en nous, le bien, c'est la fructification de la charité qui est versée par Dieu dans nos cœurs. Donc, lorsque nous disons tout le bien vient de Dieu, c'est un petit peu comme si l'on dit les fruits viennent de la terre. Ils viennent de la terre, mais par la sève interposée, la sève étant l'interface, c'est-à-dire les racines puisant dans la terre des minéraux, des sels, des nutriments, elle le transforme cette terre en sève, et la sève porte du fruit. C'est bien la terre qui porte des fruits, c'est pour ça qu'on dit « telle terre produit un excellent vin ». Mais par la vigne, par la sève, par les rameaux interposés. Lorsque nous disons « tout le bien qui est en nous vient de Dieu », c'est tout à fait certain, mais par notre organisme spirituel interposé, c'est-à-dire par le bon usage que nous faisons des grâces, avec l'aide de Dieu, mais cette aide de Dieu est en quelque sorte endémique à nous-mêmes, puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les membres du corps du Fils de Dieu, qui est vrai Dieu, avec Dieu le Père, et dans l'unité du Saint-Esprit. Donc, tout le bien qui est en nous, que nous faisons, vient de Dieu, signifie que, recevant les grâces, nous les assimilons, et nous les restituons sous forme de fruits, et vous comprenez que cette restitution est véritablement la meilleure forme de gratitude. Comment être reconnaissant envers Dieu, sinon lui offrir de ses propres dons, comme nous disons au canon de la messe. Nous devons donc comprendre, mes très chers frères, que c'est par nos fruits que nous glorifions Dieu. Ces fruits, nous les faisons, c'est Dieu qui les fait en nous, mais il ne les fait pas sans nous, de telle sorte que c'est par l'organisme spirituel régénéré qui nous a fait conférer par le baptême que nous portons ces fruits à la gloire de notre Père Céleste. Le fruit, nous en avons une doctrine, un exemple, dans l'Épître. Saint Paul nous dit que vos membres servent désormais au service de la justice, comme autrefois vous les faisiez servir au service de l'iniquité. Qu'est-ce que c'est qu'un fruit? Des fois on se dit, c'est donner l'aumône, entre autres choses, mais le fruit, voyez-vous, c'est aussi, c'est ça qui est d'une certaine manière encourageant, le fruit, c'est le fait que nous rectifions ce qui est susceptible de porter du fruit. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce n'est pas du fruit, c'est vous parlez de la branche. Le fait de se conformer, que chacun de nous se conforme par l'effort qu'il fait à sa nature de sarment, de branche de la vraie vigne, de sarment, est déjà un premier fruit. De telle sorte que lorsque le Sauveur dit que vous portiez du fruit et beaucoup de fruits, c'est que vous portiez un premier fruit par la réformation de votre être intérieur et beaucoup de fruits par la fructification de la réformation de cet être intérieur réformé. Voyez-vous ? Donc, il ne faut pas se dire il y a tant à faire, il y a tant de saisons à subir avant que je puisse attendre avant que je puisse porter du fruit. Sachez que les efforts que nous faisons pour réformer nos membres qui autrefois servaient à l'iniquité sont déjà des fruits de justice. Comme c'est encourageant, voyez-vous, mes très chers frères. C'est ça la doctrine du bon arbre. Ces fruits de justice concernent donc, vous l'avez compris, consistent donc à appliquer toutes nos facultés, donc je vous rappelle, la mémoire, l'intelligence, la volonté, à appliquer les facultés de notre âme, appliquer nos facultés à ne jamais sortir des voies divines. Négativement, qu'est-ce que ça signifie? C'est s'abstenir de tout ce qui est défendu, et positivement, c'est suivre la voie ainsi éclairée. Et alors vous allez dire, mais comment est-ce qu'il faut une lumière divine? Non, il s'agit de... parce que nous ne parlons pas dans l'abstrait, nous parlons à des chrétiens qui sont plantés dans tel ou tel secteur de la maison de Dieu, c'est-à-dire qui sont placés dans tel ou tel état. On ne peut vraiment porter de fruits que dans la mesure où on est dans un état. Le meilleur arbre fruitier, tant qu'il est, si l'on peut dire, déraciné en attente d'être planté, est en grand danger de mourir. Le chrétien, avec les meilleures dispositions de la nature et peut-être même d'une certaine piété, tant qu'il n'est pas dans un état, est en danger de mourir, puisque ses racines, d'heure en heure, sont en train de sécher. Dans la mesure où le plus petit chrétien, le plus petit arbre, est planté dans cette bonne terre qu'est l'Église, il commence à fructifier. Et on a vu des petits arbres produire beaucoup de fruits, et des grands arbres produire de très peu de fruits. Ce n'est pas la grandeur de l'arbre le type de l'arbre qui importe, ou même le secteur où il est placé, c'est le fait que cet arbre s'applique à fructifier selon son état. Il ne faut pas se dire « Ah, je ne suis pas clair, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas évêque, donc du coup je ne peux rien faire vraiment de déclatant pour Dieu ». C'est faux. Et inversement, parfois, les clercs, dans le découragement, etc., disent je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfant, etc., donc à qui transmettre, etc., j'ai l'impression de prêcher dans le vide. Eh bien non, mes très chers frères, ni les uns ni les autres n'ont raison, il faut fructifier, nous devons fructifier là où Dieu nous a mis, parce que, justement, nous devons y être utiles, nous pouvons y être utiles. Et si nous le disons, ce n'est pas par une certaine pour nous flatter ou pour nous donner une. C'est parce que si nous ne fructifions pas, le jardinier dira cet arbre occupe inutilement la terre. Donc, s'il fructifie, il l'occupe utilement. Donc, tout arbre qui fructifie est utile. Illuminez mes yeux, approchez-vous de lui pour être illuminé de sa lumière et n'avoir point le visage couvert de confusion. C'est dans le graduel. Approchez-vous de lui pour être illuminé. Cette illumination, vous l'avez compris, ne consiste pas en des grâces mystiques plus ou moins douteuses, elle consiste dans la connaissance, l'obtention des grâces d'État, qui sont autant de lumières et qui sont aussi autant de forces, qui nous sont données pour fructifier concrètement là où nous sommes. N'oublions jamais de demander à Dieu les grâces d'État dont qu'il a promis. Qu'il nous a promis quand il nous a installés dans tel état, de telle sorte que nous comprenions aussi que si en toute sincérité nous ne pouvons pas, nous n'osons pas dire à Dieu donnez-moi les grâces de mon état parce que nous savons très bien que cet état n'existe pas ou que cet état est un état dans lequel nous nous sommes mis, etc. Comme nous le disions au début, nous pouvons dissiper une illusion sur nous-mêmes en voyant si nous pouvons honnêtement demander à Dieu des grâces d'état. Ou si nous n'osons pas vraiment parce que nous savons que cet état, c'est un état imaginaire que nous nous sommes forgés. Il faut purifier ses intentions, et cette purification des intentions provient de cette. Ne peut se faire que dans la mesure où nous profitons de cette lumière dont Dieu nous illumine. Approchez-vous de lui pour être illuminé. Approchez-vous de lui, c'est-à-dire détournez-vous de vous. C'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, ou l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Si nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons de la lumière. Si nous nous éloignons de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Il ne faut pas s'étonner si parfois dans la vie chrétienne, on se dit, j'ai l'impression que Dieu m'abandonne, je suis totalement dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez à Dieu de venir, plutôt, allez à Dieu. Approchez-vous de lui, et vous serez illuminé. Pour être illuminé, être illuminamini, vous serez illuminé. En se séparant des occasions de péché, en se séparant de l'amour propre, en se séparant de toutes ces choses qui sont comme dit l'Écriture, ces petits renards qui rongent la vigne et qui la tuent, nous obtenons cette lumière qui nous purifie, cette lumière qui nous fortifie, et cette lumière qui, rectifiant nos intentions, nous fait déjà porter des premiers fruits, les premiers fruits de la justice. Tout arbre, dit notre Seigneur, c'est une parole mystérieuse, que nous n'approfondirons pas trop, mais nous dirons juste un mot sur cette « tout arbre », dit notre Seigneur. Que dit-il? Il dit « tout arbre bon ne peut produire de mauvais fruits ». C'est presque de la témérité, ce serait presque de la témérité si ce n'était pas le Fils éternel de Dieu qui nous le disait. Tout arbre bon, un arbre bon ne peut pas produire de mauvais fruits. Tant que subsiste la charité, mes très chers frères, on ne produit pas de crime. Comment ça se fait qu'un chrétien commence à un certain moment à démultiplier les fruits de perdition, les péchés mortels, ou même les péchés véniels qui précèdent toujours les péchés, ou en tout cas qui précèdent souvent les péchés mortels, quand on les laisse se développer et foisonner, c'est qu'il laisse décroître la charité. Et si l'on laisse, on laisse décroître la charité, c'est comme dans un vase communicant. Si on laisse décroître la charité, nécessairement, la place, la nature est en horreur vide, la place est prise par la cupidité, la concupiscence. Donc, vous voyez, mes très chers frères, ces paroles de notre Seigneur ne sont pas de la témérité, c'est un constat, si l'on peut dire, de physique spirituelle, si l'on peut dire. Tant que vous maintenez la charité haute, tant que vous méditez sur l'amour dû au Dieu créateur, législateur, rédempteur, etc., comme nous l'avons dit, comment pécher? Il faudrait faire un effort pour pécher. Il faudrait se forcer. Vous allez me faire sourire en disant, moi, j'ai pas beaucoup. Si on fait l'effort pour maintenir la charité prédominante, il faudra faire en quelque sorte, il faudrait faire par impossible un effort pour pécher. En revanche, si on laisse la charité se refroidir, et là c'est une expression de notre Seigneur, alors évidemment tout d'un coup on se dit, après tout j'en ai assez, pourquoi, à quoi bon, etc. Et tout d'un coup le péché nous devient facile. Donc pour dissiper les illusions sur nous-mêmes, disons-nous, non pas que nous sommes attaqués par le démon qui tout d'un coup, etc., qui se probablement parce que nous sommes des grands saints, etc. Non, tout simplement, c'est que si tout d'un coup, il nous apparaît que le péché nous est curieusement assez facile et assez envisageable, ou sinon à faire, sinon pratiquer, du moins envisager, c'est que la charité est en train de décroître. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut rien faire, sinon, enfin ne rien faire d'autre que de s'activer à souffler sur les braises de la charité. Nous devons nous souvenir, mes très chers frères, que la charité seule est quelque chose qui est substantiellement, qui a une substance réelle. La concupiscence n'est jamais que le mauvais usage, ce n'est jamais qu'un mouvement centrifuge, ce n'est pas quelque chose en soi, contrairement à la charité, qui n'est autre que Dieu lui-même. Donc, si nous refusons de nourrir les désirs de la cupidité, de la concupiscence, souvenons-nous de ce que dit l'Écriture, faute de proie, le lion périt. Ce lion rugissant qui rôde autour de nous, cherchant qui nous dévorer, si nous lui refusons tout, d'une certaine manière, alors il ne va pas mourir littéralement, puisque la cupidité ne mourra qu'avec nous, mais il va être tellement exemple qu'il va d'abord être affamé, c'est-à-dire qu'il va être furieux, il va redoubler un petit peu comme un loup qui a très faim, il est très féroce, il attaque, il a du courage tout d'un coup parce qu'il attaque. Mais si vous refusez qu'il vous dévore et que vous le fuyez, eh bien ce loup dévorant, dangereux va finalement devenir un loup mourant de faim. Et un loup mourant de faim, c'est quasiment un loup mort. Vous voyez, mes très chers frères. Donc, n'ayons pas peur de notre cupidité, ne nous en occupons pas tellement, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est extensif à nous, occupons-nous plutôt d'augmenter la charité constamment, pas de façon méthodique, de telle sorte que nous puissions véritablement avoir cette prédominance de la charité qui laisse notre concupiscence comme exsangue, comme étouffée, comme languissante, pour utiliser les divers propos des auteurs, de telle sorte que nous puissions, elle soit tellement engourdie qu'il suffise de veiller pour qu'elle soit à ne pas retomber, pas s'approcher d'elle, pour qu'elle soit finalement une sorte de tendance latente, mais très maîtrisée, mes très chers frères. Alors, une dernière exhortation avant de terminer. Dans le graduel, il est dit « Approchez-vous de lui pour être illuminé de sa lumière et n'avoir point le visage couvert de confusion. » Encore une fois, ces appels de générosité que Dieu nous adresse, que l'Église nous adresse, que l'Écriture nous adresse, ne sont jamais des appels au mieux vivre. Si vous achetez ça, vous allez être plus heureux. Si vous tournez vers Dieu, ça sera un plus dans votre vie. Non, il dit, l'Écriture dit, approchez-vous de lui pour être illuminé. Saint Jacques dit, approchez-vous de lui sans crainte. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne généreusement et sans faire de reproche. Pourquoi? Parce que sinon, vous pourriez et vous serez confondu. Parce que sinon, au jugement dernier, Dieu vous demandera compte du fait que vous ayez négligé sa générosité. Alors vous allez dire, certains pourraient dire, si c'est une générosité avec un aspect combinatoire derrière, c'est pas... C'est Dieu qui est le rémunérateur de toutes choses. Dieu est généreux en donnant sa grâce, sachant que nous avons besoin de sa grâce pour échapper à la damnation. Parce qu'il ne faut pas constamment le ressasser, mais enfin, il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier. Oui, mes très chers frères, afin de n'avoir point le visage couvert de confusion. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, dit notre Seigneur, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Je pense que ce n'est pas la peine d'épiloguer, on comprend tout à fait ce que dit notre Seigneur. Et nous n'essaierons pas, avec des mots humains, de surenchérir. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Sachant que Dieu est fidèle, sachant que Dieu est patient, sachant que Dieu supporte beaucoup de choses, bien entendu, puisque il, au moment voulu, mais tout arbre qui ne porte, il n'en reste pas moins que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il n'y a pas de véritable piété ni de salut, nous dit un auteur, sans les œuvres. Quel malheur de se retrouver devant le tribunal de Dieu sans avoir la racine de la charité et sans avoir les racines de la charité et sans les fruits des bonnes œuvres. Se contenter d'en frémir, de cette perspective, parce que cela, c'est une perspective qui nous fait frémir, se contenter d'en frémir, mes très chers frères, eh bien, c'est n'en être que plus coupable, en réalité. Si je dis, oh là là, qu'est-ce que ça serait terrible d'être damné, bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dieu, au jugement dernier, nous rappellera ce moment et nous dira, mais à un certain moment, tu as frémi. Et qu'est-ce que tu as fait? Alors vous allez dire, mais que faire? Que faire? Crier vers Dieu, et surtout être reconnaissant. Dans un grand nombre de messes, on nous donne des textes où nous crions vers Dieu. Vers vous, je crie, mon Dieu, j'élève ma voix, etc. Ne m'abandonnez pas. C'est vrai, effectivement, c'est une chose excellente. Dans l'antienne de communion, il dit, inclinez vers moi votre oreille, hâtez-moi de me délivrer. Quand nous voyons la concupiscence prédominée, lorsque nous voyons notre faiblesse, lorsque nous contemplons cette maxime de nous, le mal, de Dieu, le bien, que pouvons-nous faire, sinon dire, hâtez-vous de me délivrer, hâtez-vous de me délivrer de moi-même, sachant que Dieu nous répondra. Et c'est là où il faut vraiment vouloir ce qu'on demande. Si on dit au Seigneur, hâtez-vous de me délivrer de moi-même, qu'il nous donne ses grâces et que nous n'en profitons pas, que nous ne les mettons pas à profit, chers frères, c'est une façon de se moquer de Dieu. N'avoir pas de bons fruits, nous dit un auteur, c'est en avoir des mauvais. Parce qu'il n'y a pas de fruit neutre. Il y a un bon fruit ou un fruit mauvais. Lorsque c'est une mauvaise année, puis que l'arbre est couvert de fruits, puis que les fruits ne sont pas bons, on ne va pas dire ce sont des fruits neutres, on va dire ce sont des mauvais fruits. Cette année, c'est des mauvais fruits. Vous voyez, n'avoir pas de bons fruits, c'est en avoir de mauvais. Il n'y a pas, dans la vie spirituelle, il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas de troisième possibilité. N'avoir pas de bons fruits, c'est en avoir de mauvais. La balance penche, dans le chrétien, a priori, vers la charité. Pourquoi? Parce que nous sommes baptisés. Nous ne sommes plus esclaves du démon. Nos membres ne servent plus à l'iniquité. Nous ne sommes plus esclaves de l'iniquité. A priori, nous partons un peu comme un enfant de riche, si j'ose dire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que nous entrons dans la vie nouvelle avec un capital. Nous entrons dans la vie nouvelle de la vie chrétienne avec la balance qui penche a priori vers la charité. Pourquoi ne pas appuyer de toutes nos forces sur cette balance pour faire prévaloir la charité, mes très chers frères, avec l'aide de Dieu? La grâce du baptême reçu n'est pas une petite grâce, ce n'est pas une grâce qui nous a mis au niveau zéro et à partir de là, il faut se faire un pécule. Nous sommes enfants du grand roi, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de celui qui verse en nos cœurs la charité par le Saint-Esprit et qui est lui-même la charité puisque Dieu est charité, Dieu est amour. Donc vous voyez mes très chers frères, si dans la perspective de notre vie chrétienne, nous sommes souvent découragés, disons-le en vérité, dissipons une énième illusion, ce n'est pas que la vie chrétienne est difficile, c'est que nous sommes paresseux. Quand je le dis à moi en premier, évidemment. Hein. Ce n'est pas que la vie chrétienne est difficile, c'est que nous sommes paresseux. Pour fructifier, il faut tailler, on ne peut pas... Les arbres dans la nature sauvage fructifient, mais ce sont des petits fruits, et souvent ils n'en ont pas. Pour fructifier, il faut accepter d'être taillé, il faut accepter de se juger soi-même, il faut accepter de se délivrer de toutes les illusions que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, de telle sorte que, une fois que c'est fait, une fois que c'est accepté. Une fois que l'on dit « Oui, mon Dieu, je comprends la logique de la vie chrétienne », pourquoi ne pas la mettre en pratique? De toute façon, nous n'avons pas le choix. Ou alors, nous avons un choix malheureux à faire, évidemment, nous avons le choix, si l'on peut dire, mais Pourquoi faire ce choix? Comme dit notre Seigneur dans l'Ancien Testament, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Pourquoi choisir la mort? Pourquoi choisir la mort? D'autant plus que nous sommes baptisés, que nous avons cette charité a priori qui nous a été donnée au départ. Vous voyez, mes très chers frères. Donc, comprenons que notre véritable intérêt, à tous les niveaux, c'est de réaliser la volonté de Dieu, parce que c'est là, en cela, que consiste non seulement la vie éternelle, mais aussi le bonheur. Le bonheur temporel, le fait d'être heureux, heureux d'être fidèle à Dieu, heureux d'être enfant de Dieu, et bienheureux, parce que, justement, seuls peuvent être bienheureux ceux qui font l'expérience de cette soumission à Dieu, de cette fructification, sachant que l'arbre qui produit beaucoup de fruits pour la gloire de son Père à lui, avec l'aide de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.